Salut à vous. Un très bon sabbat. On ne vit pas dans des temps normaux. Nous sommes en fait à un tournant dans les affaires du monde. On n'a pas besoin d'écouter les nouvelles longtemps pour voir qu'on est rendu à ce stade-là. Et plusieurs événements créent chez beaucoup de personnes dans le monde de la confusion, de l'inquiétude, l'instabilité. En plus de ça, c'est que nous avons tous personnellement nos propres circonstances de vie, avec ses difficultés, avec ses exigences. Vous savez, en tant que chrétien, je pose la question, et c'est à ça que je veux répondre dans le sermon. En tant que chrétien, comment passer à travers tout ça avec succès et avec sérénité, ce que j'appellerais la paix d'esprit de Dieu? La réponse, pas besoin de vous y reporter, mais elle se trouve dans 1 Corinthiens 15, verset 57. Toute brève réponse. 1 Corinthiens 15, 57, je vous la cite. Comment nous allons passer à travers tout ça? À travers nos problèmes personnels et à travers les situations du monde, Dieu nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est là qui est notre encouragement. Reportez-vous à Hébreux chapitre 12, s'il vous plaît. Hébreux chapitre 12. On va lire le verset 1. Nous donc aussi, donc les appelés du temps de la fin que nous sommes, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, d'un si grand nombre de personnes qui ont passé à travers des difficultés, qui ont vaincu, ils nous disent ce que nous devons faire de notre côté. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Ça, c'est ce qu'on a à faire, de se purifier, d'éliminer le mal de nos vies. Rejetons le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte vers le but. Et le mot persévérance ici, dans d'autres versions, est rendu par le mot patience, qui est l'équivalent dans le contexte que je vous donne. Et regardez la clé, début du verset 2, « Ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi, qui donne la foi, qui donne sa foi, et l'amène à la perfection. » Jésus qui donne sa foi et l'amène à la perfection. Alors, le titre de mon message aujourd'hui, « Utiliser la foi et la patience du Christ. » Maintenant, je reviens à ça. On parle des nombreux témoins ici. Qui sont ces nombreux témoins? En fait, ce sont les serviteurs de Dieu mentionnés dans le chapitre précédent, dans Hébreux chapitre 11. Et vous pourrez, comme moi, mettre un petit signet dans cette page-là parce qu'on va y revenir régulièrement. Ça va être plus facile pour vous retrouver. Alors, ces témoins dont il parle ici, ce sont les serviteurs de Dieu qui sont mentionnés dans Hébreux 11. C'est un groupe d'appelés au cours de l'histoire qui ont vécu toutes sortes de situations difficiles, variées, parfois faciles, parfois difficiles, parfois extrêmes. Et on voit qu'ils ont réussi. Comment? Par la foi du Christ et par la patience du Christ en eux. Et ça, c'est des exemples d'encouragement pour nous. Pour ce qui est de la patience, je vous apprends rien. Mais on est porté à demander à Dieu de nous donner la patience tout de suite, immédiatement, sur le champ. C'est vrai, quand on a besoin de réussir à passer à travers quelque chose puis qu'on est impatient, on dit « donne-moi de la patience » et on s'attend à ce que ça vienne tout de suite. Et laissez-moi vous préciser une chose par rapport à la patience qui va nous aider à avoir la bonne approche en ce qui concerne ça. La patience, dans ce sens-là, c'est d'accepter de laisser passer du temps. Accepter de laisser passer du temps par rapport à ce que nous attendons, par rapport à ce que nous avons demandé et par rapport à la réalisation de certaines choses. La vraie patience, par l'aide de Dieu, c'est d'accepter de laisser passer du temps quand les choses ne sont pas toutes réglées. Toutefois, être patient, je vous apprends rien, mais ça va à l'encontre de la société effrénée de notre monde moderne, où tout va très vite, de plus en plus. Déplacement rapide, repas minute, communication instantanée, Il y a 100 ans, par exemple, pour communiquer par écrit avec quelqu'un, il fallait donc prendre la plume, écrire une lettre, l'envoyer. Ça prenait du temps avant que ça se rende. Et avant de recevoir la réponse, ça prenait également beaucoup de temps. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Dans notre monde ultra rapide, Dieu nous dit « soyez patient ». Et c'est pour ça qu'on a besoin de son aide pour l'être. Il nous dit « prenez le temps de développer mon caractère ». Rejetez ce que vous avez à rejeter, c'est un travail à longue haleine jusqu'au retour de Christ, et demandez mon aide pour que je vous soutienne dans ce que vous avez à faire. Et dans ce sens-là, on se rend compte que la course chrétienne ou le cheminement chrétien, ce n'est pas un sprint. C'est pas une course de courte durée où on va au maximum tout le temps. C'est un marathon. Et un marathon, c'est une course de longue durée où il faut développer l'endurance, la patience, en continuant de faire les choses que nous avons à faire. On est dans un marathon et non pas dans un sprint. Alors voyez-vous, les héros d'Hébreux 11, on voit qu'ils ont été patients. Ils savaient qu'ils devaient avancer sans même savoir combien de temps il allait leur falloir, ni sans savoir toutes les circonstances qui allaient venir au cours de leur vie physique. Ils ne savaient pas d'avance. C'était pas écrit d'avance pour eux. Nous, on lit après, ça va bien. Mais eux savaient pas ce qui s'en venait devant. Ils devaient être patients et courir le marathon ou aller de l'avant avec le marathon en gardant en tête l'importance du but fabuleux que Dieu avait en tête pour eux. Lisons Hébreux 11, s'il vous plaît, le verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. On est certain que ce qu'on espère va arriver. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et là, je reviens au titre de mon sermon aussi. Parce que la foi dont il est question ici, j'aimerais que vous compreniez bien que ça va vous encourager, et moi aussi, que cette foi-là, ce n'est pas votre foi personnelle. C'est la foi du Christ. C'est pour ça que l'apôtre Paul, qui avait compris le principe, mentionne clairement dans Galates 2, verset 20, Paul qui avait été baptisé, qui faisait partie de l'Église, à qui Dieu avait révélé la vérité biblique, Paul dit, « Ce n'est plus moi qui vis. J'ai été baptisé, j'ai reçu l'imposition des mains, j'ai reçu le Saint-Esprit, c'est le Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant, c'est que je vis par la foi du Christ qui s'est donné pour moi. » Paul avait compris le principe. C'est le même principe que je veux souligner ici aujourd'hui. Il dit, si je vis, c'est par la foi du Christ qui vit en moi. Et ça nous donne toute la dimension d'encouragement qu'on a besoin et qu'on peut s'en servir pour demander à Dieu d'augmenter en nous son Saint-Esprit. Parce que la foi, comme la patience, ce sont des fruits de son Saint-Esprit. Si vous allez voir dans Galates 5, verset 22, vous allez voir que la foi et la patience font partie des fruits de l'Esprit. Et notre responsabilité, quand Dieu nous donne son Saint-Esprit, quand il nous donne sa foi, quand il nous donne de vouloir persévérer, c'est qu'on ne peut pas simplement s'arrêter là. Parce qu'il est clairement mentionné, vous pourrez aller voir vous-même, dans Jacques 2, à partir du verset 14. Vous lirez, vous ferez une étude personnelle, ça vaut la peine, en continuant. Jacques 2, verset 14 et verset suivant, l'apôtre Jacques explique clairement. Il dit, la foi que Dieu nous donne, sans les œuvres, elle est morte. Elle n'a pas d'efficacité, elle n'a pas de résultat, elle est sans effet. Alors, la foi que je reçois de Dieu, si je ne l'utilise pas pour faire les efforts avec son aide, pour changer les choses que j'ai à changer et porter du fruit dans ma vie, il dit, la foi, elle est morte. C'est comme quelqu'un qui ne l'aurait pas. On doit demander chaque jour à Dieu son Saint-Esprit et ça comprend la foi et ça comprend la persévérance qu'on a besoin. Mais ça vient de lui. Mais après qu'il nous la donne, il faut l'utiliser en agissant selon sa volonté, en nous purifiant, en faisant du bien aux autres, en supportant l'œuvre. C'est ce qu'on a à faire. C'est ça les œuvres de la foi qui rendent la foi efficace, vivante et qui lui donnent un effet. Alors, La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Comme c'est la foi de Christ, c'est une assurance. Le Christ ne doute pas. Absolument pas. C'est lui qui a créé les choses, c'est lui qui a établi le plan avec son Père et c'est lui qui est prêt à nous aider. Et cette puissante perception qui nous est donnée par la foi de Christ nous montre en fait une réalité infiniment plus grande et plus durable que la réalité physique que nous voyons autour de nous et qui est là seulement pour un temps. Si nous nous fions seulement à ce qui est visible, si nous basons nos décisions sur ce qui est visible autour, nous pouvons commettre de grandes erreurs, de graves erreurs. En voici un exemple très fort qui va se produire bientôt et où, vous et moi, nous allons être mis au test. Sous peu, il va apparaître en Europe, et c'est en train de se former, un puissant système politique, militaire, économique et religieux qui va s'imposer sur la planète, dirigé par deux êtres spéciaux très puissants que la Bible présente comme deux bêtes. Et à ce moment-là, quand ça va se produire, la vaste majorité des êtres humains va prêter allégeance à ce système mondial réel, visible, impressionnant. La vaste majorité des êtres humains vont porter allégeance à ce système mondial-là. On le voit, reportez-vous à Apocalypse 13, verset 1. Ici, il est question de la première bête. « Puis, je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. » Et vous voyez, dès le début du verset 2, c'est la bête que je vis, etc. Bon. Verset 8. Qu'est-ce que les gens vont faire quand cette grande organisation politique, militaire, religieuse en Europe, l'Europe unie, va apparaître? On le voit au verset 8 du même chapitre. Tous les habitants de la terre l'adoreront. Ils vont trouver ça formidable parce qu'il y aura une époque de grande prospérité qui va apparaître et ce système-là va donner l'impression qu'il va régler tous les problèmes. Tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie. À quel moment notre nom est-il écrit dans le livre de vie? Au moment de l'imposition des mains par un ministre, lorsqu'on reçoit l'Esprit de Dieu en nous, après nous être repentis. Mais il faut y tenir, il faut faire ce qu'il faut pour ne pas perdre de vue les choses essentielles et pour ne pas faiblir non plus, pour ne pas être de ceux qui vont adorer la bête. Il dit, « Tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. » Maintenant, on va aller un peu plus loin, verset 11, on voit la deuxième bête. Les deux vont travailler de connivence, vont travailler ensemble. Verset 11, « Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. » Ici, c'est le grand chef religieux, le grand faux prophète, qui va se faire passer pour représentant l'agneau, même remplaçant de l'agneau. Et vous regardez ensuite, ça c'est la bête religieuse, vous regardez ensuite au verset 16, ce qui va arriver dans ce contexte-là. « Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite et sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. » Ça, ce sera la situation. Et c'est pourquoi l'ensemble de l'humanité va être en admiration et va collaborer avec la bête. Tous ceux qui verront ces choses-là bientôt, se fiant sur ce que leurs sens physiques vont leur montrer, une bête très puissante, qui va sembler régler les problèmes, vont s'imaginer, vont être convaincus que ce système est solide et incontournable et puissant et qu'il vaut mieux collaborer pour ne pas avoir de problème, pour être capable d'acheter, de vendre, donc pour être capable de survivre. Mais j'ai une question. et ça rejoint le thème de mon message. Qu'est-ce qui sera le plus réel à ce moment-là? Qu'est-ce qui sera le plus réel? Est-ce que ce sera ce qui paraîtra visiblement à l'œil humain? Ou est-ce que ce sera ce que Dieu annonce comme devant se réaliser à travers ça? Parce que ce système-là va sembler durable, va sembler inébranlable. Alors, la plus grande réalité dans ça, c'est la réalité qui est derrière ce qui va se passer et qui va ensuite arriver. Reportez-vous à Daniel chapitre 2. Parce que on voit par ce passage-là que je vais vous citer que, dans le fond, Dieu dit ce système humain-là, là, qui sera tellement impressionnant, je vais le détruire totalement. Je vais le remplacer par mon système, par un système juste qui ne tombera jamais. Daniel chapitre 2, verset 44. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, le royaume éternel de Dieu, et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. Question? Allons-nous croire ce que nous verrons, parce que nous allons le voir, ou allons-nous croire ce que Dieu déclare, ce que Dieu dit? Voyez-vous, quand on parle des héros de la foi de Hébreux 11, à cause de leur nouvelle façon de vivre, parce qu'ils ont changé de façon de vivre, ces gens-là, ils ont cru autre chose, ils ont agi autrement, mais à cause de cela, ceux décrits dans Hébreux 11 sont devenus, littéralement, des étrangers dans leur propre pays, parce qu'ils n'étaient plus les mêmes qu'avant, ils ne faisaient plus les mêmes choses. Ils ne participaient plus aux mêmes choses, aux mêmes fêtes, aux mêmes traditions autour. Ils ont changé, comme nous, on doit changer. Et ils devenaient des étrangers dans leur propre pays, comme nous, exactement. Et ils ont subi d'énormes pressions de leur entourage. Mais ils ont réussi, comme on voit dans les textes. Pourquoi? Par leur propre force, parce qu'ils étaient tenaces? Non! On va voir tantôt. Ils étaient loin d'être tenaces. Il y a des gens qui avaient peur parmi les héros de la foi. Je vais vous le montrer tout à l'heure. C'était des êtres humains normaux. C'est seulement avec l'aide du Saint-Esprit qu'ils ont pu passer à travers. Autrement dit, par l'action du Christ en eux. Ils ont cru Dieu et ils ont vu au-delà de la situation qui était la leur autour, dans leurs environs. Ils ont été patients. Ils ont réussi. On va en voir quelques-uns. Pas beaucoup, mais quelques-uns. Allez dans Hébreux, on revient dans Hébreux. J'espère que vous avez mis votre petit signet. Hébreux, chapitre 11. Hébreux, chapitre 11, on va lire le verset 4. Le premier héros de la foi qui est mentionné, bien sûr, c'est Abel. Verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore aujourd'hui, quoique mort. Il nous parle comment? Par les textes bibliques, par l'exemple qui a été gardé et qui nous explique ce qui est arrivé. Et dans son cas, il a été tué. Pourquoi? Parce qu'il obéissait à Dieu. Parce que son frère était jaloux. Parce que Caïn n'a pas offert la même sorte d'offrande que Dieu demandait. Il a fait les choses à sa façon là-dessus et sur bien d'autres choses également. Et quand Caïn a vu son frère bien agir et a vu la réaction de Dieu par rapport à ça, il est devenu amer. Il est devenu en colère. Et ça, c'est un phénomène qui se produit régulièrement parce que la conduite juste de son frère qui obéissait aux lois de Dieu, qui plaisait à Dieu, le mettait en lumière lui, faisait ressortir ses fautes à lui. Et c'est pour ça que Caïn a haï son frère et ayant vu ses fautes mises en évidence et ne voulant pas se repentir, a tué son frère plutôt que de changer. Alors voyez-vous, ce qui est frappant en même temps, c'est que le premier homme de foi mentionné dans la Bible a été en même temps le premier martyr, si vous regardez les choses telles quelles. Et on a des choses, nous, à apprendre à travers ça. C'est qu'avoir la foi ne signifie pas que la vie sera toujours facile. Il y a des bouts, oui. Il y a des grands encouragements et Dieu va en donner encore. Mais avoir la foi ne signifie pas que la vie sera toujours facile, que rien de mauvais ne nous arrivera. Abel a cru à Dieu, il a obéi, il a offert ses meilleures bêtes dans son troupeau comme offrande à Dieu. Il attendait le salut, il a obéi à Dieu et il a été tué. Mais il est en attente de sa couronne. Et Dieu s'est servi de son exemple jusqu'à aujourd'hui pour nous enseigner des choses. Voyons ensuite un autre cas, tout de suite après. Énoch, Hébreux 11, verset 5. C'est par la foi, encore la foi de Christ, qu'Énoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort. Et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Et ici, je précise simplement le mot « enlevé » parce que certains croient qu'il a été emmené au ciel. Il n'y a personne au ciel. La Bible dit que personne n'est allé au ciel. Il y a juste le Christ qui est retourné. Il n'a pas été emmené au ciel. Il a été transporté ailleurs. Le sens du mot « enlevé » veut dire « transporté ». Comme ça a été le cas, vous vous rappelez, pour Philippe qui a baptisé l'eunuque. Après qu'il a procédé au baptême, Philippe a disparu. Et c'est marqué dans la Bible qu'il a été transporté ailleurs par Dieu. Dieu est tout-puissant. Vous pourrez voir ça dans Acte 8. Acte 8, à partir du verset 26. Acte 8, à partir du verset 26, vous allez voir l'exemple de Philippe qui a été changé de place en un instant par Dieu pour aller travailler ailleurs après qu'il lui a donné cette mission et qu'il l'a eu accomplie. Alors, dans le cas d'Enoch ici, Enoch a été enlevé pour qu'il ne soit pas tué, pour qu'il ne lui arrive pas le même sort qu'à Abel. Exactement. Parce qu'il y a des gens qui voulaient l'assassiner, c'est ça. Il a été changé d'endroit, transféré de lieu, parce que certains voulaient le tuer. Peut-être à cause de son comportement. Peut-être par le fait qu'il obéissait à Dieu et qu'il était devenu tellement différent des gens autour que certaines personnes voulaient le tuer, comme Caïn qui a tué Abel. Voyez-vous, et c'est marqué que Enoch était agréable à Dieu en lui obéissant. Comme Abel, exactement. Alors voyez-vous, Dieu accomplit différentes choses à travers différents individus, selon son plan. Et tout ça s'en va dans la même direction. Toutefois, Abel et Enoch étaient en même temps très semblables sur un point important. C'est que les deux avaient la foi. Et ils croyaient Dieu et ils comptaient sur sa force. C'est pas par leur force qu'ils ont accompli ce qu'ils ont accompli. Et c'est basé sur le verset suivant, verset 6 d'Hébreux 11. Or, sans la foi qu'ils avaient, il est impossible de lui être agréable. Et c'est pour ça qu'Enoch et Abel lui ont été agréables, parce qu'ils avaient la vraie foi qui pousse à obéir à Dieu et à vouloir faire sa volonté en toutes circonstances. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, qu'il soit certain que Dieu existe. Le Christ est certain que son Père existe. Et c'est sa foi qu'il nous donne pour qu'on croit que la divinité existe, que Dieu existe, le Père et le Fils, et qu'ils sont prêts à nous aider. Crois que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur, celui qui répond à ceux qui le cherchent de tout leur cœur, diligemment, selon certaines versions. Alors ça, c'est le principe. Et c'est important, cette foi-là, cette confiance-là, il faut qu'elle soit une confiance qui devienne confiance absolue. On doit la cultiver, l'utiliser en mettant en pratique les lois de Dieu pour que cette foi-là devienne encore plus solide. Est-ce que ce serait possible d'avoir une véritable relation avec un autre être humain s'il n'y a pas de confiance? Est-ce que ce serait possible d'avoir une vraie relation avec un autre être humain s'il n'y a pas de confiance? Entre un mari et une femme, entre des amis, entre des enfants et des parents, s'il n'y a pas de confiance, est-ce que c'est possible d'avoir une relation véritable? Parce que la confiance, c'est la base, la confiance, c'est la base de toute relation saine, de toute relation vraie, de toute relation fructueuse. Et l'être le plus fiable et le plus digne de confiance dans l'univers, c'est notre Père, notre bon Papa, comme certains comme certains disaient. Je me rappelle, il y avait une religieuse africaine que j'ai baptisée, une ancienne religieuse africaine que j'ai baptisée dans l'église, et elle appelait Dieu Papa Bon Dieu, avec beaucoup de chaleur, avec beaucoup d'enthousiasme. Alors Dieu nous aime, on est ses bien-aimés, et il promet de nous donner toute l'aide nécessaire pour passer à travers et arriver au but. Ça veut dire qu'on doit apprendre à lui faire confiance, à lui faire entière confiance dans toutes les circonstances, en continuant à nous appliquer à vivre selon ses lois. Ça, c'est les œuvres qui rendent la foi efficace, quelles que soient les circonstances de notre vie. Quelles que soient les circonstances de notre vie et quelles que soient les choses visibles que l'on voit autour de nous, les choses perceptibles à l'œil humain. Vous savez, il y a plusieurs exemples dans la Bible de personnes qui ont cherché à se protéger eux-mêmes en regardant les choses autour, là, qui ont cherché à se protéger eux-mêmes plutôt que de faire confiance à Dieu. Il y a plusieurs exemples de ça. Plutôt que de faire ce qu'il dit, puis d'attendre patiemment. Ils ont fait les choses à leur façon, mais le résultat n'était pas fameux. C'est pour ça qu'il est écrit dans Proverbe 14, verset 12, pas besoin de vous y reporter, vous pouvez noter, Proverbe 14, verset 12, « Telle voie paraît droite à un homme, semble droite, semble juste, mais son issue ou son résultat, c'est la voie de la mort. La conséquence n'est pas ce qu'on attendait. » C'est ce qui veut dire que ce qui paraît logique à l'œil humain n'est pas toujours la vérité. Il n'est pas toujours ce qu'on doit faire ou le chemin qu'on doit suivre. Le chemin qu'on doit suivre, c'est celui que Dieu nous montre. Et il nous promet de nous donner la force nécessaire pour arriver au bout. Si nous ne faisons pas entièrement confiance à Dieu, qu'est-ce qui arrive? Si notre cœur n'est pas totalement à lui, et si on peut le développer, on doit le développer, on recule, on cesse d'avancer, on cesse de progresser, on perd du terrain spirituellement. Et dans ce sens-là, Dieu devient de moins en moins réel et on compte de moins en moins sur lui. On recule et là, on cherche à se protéger soi-même avec ce qu'on pense être le mieux, alors que Dieu nous donne ce qu'on a besoin. Il y a un très bon exemple de ça dans la Bible, vous allez comprendre. C'est quand le Christ a ressuscité son ami Lazare, qui était mort depuis quelques jours, là. Il était au tombeau. Il était en train de se décomposer même. La mort était réelle, tout le monde le savait. Mais ce qui est arrivé, vous lirez le passage, je vais vous le donner tantôt, c'est que le Christ l'a ressuscité, mais là, vous avez deux groupes de Juifs qui étaient opposés habituellement les uns aux autres. Vous aviez les Sadducéens et les Pharisiens. Ils étaient des ennemis. Ils étaient opposés les uns aux autres. Et devant ce miracle-là, qui était incontestable, ils ne pouvaient pas le nier, il n'y avait pas le choix, là. Et les gens admiraient ce qui se passait. Ils se sont mis d'accord, les deux groupes opposés, se sont mis d'accord en disant ceci. Écoutez, les garçons, si on fait rien, là, tous vont croire que Jésus est vraiment le Messie. Et qu'est-ce qui va arriver? Les Romains vont venir, vont prendre nos places et vont prendre notre pays. Vous pourrez lire ça dans Jean, chapitre 11 et le verset 47. Jean, chapitre 11, à partir du verset 47. Vous allez voir davantage ce que je veux vous dire, là. Alors, je parle de Jean, maintenant, qui était pourtant très religieux, là, qui mettait en pratique très méticuleusement les Écritures. Il mettait en pratique très méticuleusement les Écritures, selon leur compréhension, ou je devrais dire selon leur incompréhension. Mais il était très méticuleux sur ces choses-là. Il mettait en pratique, par exemple, scrupuleusement la loi de Moïse. Il offrait des sacrifices, toutes les ablutions, tous les lavages rituels, la circoncision. Il avait gardé ça, puis il tenait mordicus, et il voulait pas abandonner ça complètement. Alors, il était très, très, très religieux là-dessus. Puis, bien sûr, il avait ajouté plein de choses par-dessus, de leur propre cru. Et bien sûr, il croyait au sabbat, il croyait aux fêtes, il croyait à payer les dîmes. Ça, il le faisait, ce qui est gardé dans la loi. Mais ce qu'on appelle la loi de Moïse, les ablutions puis les sacrifices d'animaux et tout ça, c'était passé. Mais eux tenaient à ça. Ces gens-là, très méticuleux, qui se pensaient bons, même meilleurs que les autres, ont eu peur. Ils ont comploté pour tuer Jésus. Et c'était quoi ça? C'était de transgresser le sixième commandement. qui dit « tu ne tueras pas », c'était de commettre un meurtre. En d'autres termes, ils ont été très méticuleux dans l'observance de la loi selon eux, jusqu'au jour où ils ont eu peur des circonstances autour d'eux qui pouvaient les affecter. Là, les choses ont changé. De très méticuleux qu'ils étaient, ils étaient prêts à ce moment-là à faire le contraire de ce qu'ils disaient, c'est-à-dire à commettre un meurtre par peur des Romains. Voyez-vous? Sans la foi, c'est impossible de plaire à Dieu. Ils ne croyaient pas Dieu. Même s'ils connaissaient la loi en détail, peut-être mieux que n'importe qui, peut-être mieux que tous les autres. Pour eux, Dieu n'était pas réel. Ils ne le connaissaient pas. Ils n'avaient pas de véritable relation avec lui, comme nous, on doit développer. Quelqu'un qui n'a pas la vraie foi ou la vraie confiance en Dieu ne le suit pas réellement. Ça, c'est important de comprendre le principe aussi. Cette personne-là peut poser des gestes extérieurs qui semblent être les gestes de quelqu'un qui est converti. C'est en rapport avec la loi. La personne va faire ça quand les choses vont bien, quand c'est facile, quand ça convient. Ce qu'elle voit lui fait croire que tout va bien et que ça va continuer comme ça à jamais. Mais Dieu dit, c'est ma voie que vous devez suivre. Celle que je vous révèle, même si parfois, à l'œil humain, ça ne semble pas vraiment être la voie à suivre. C'est là qu'on a des choix difficiles à faire et c'est là qu'on peut compter sur notre grand frère qui agit en nous. Si on demande sa foi tous les jours et qu'on l'utilise, ça fait toute la différence. On va voir un exemple de ça. Juste un peu plus loin. Hébreux 11, verset 7. Le cas de Noé. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses. Alors Dieu l'a averti qu'il venait un déluge. C'est par la foi que Noé, divinement averti, que le monde allait être détruit de cette façon, averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Alors voyez-vous, Noé a cru la parole de Dieu. C'est notre choix aussi, c'est notre possibilité, Dieu nous l'a. Noé a cru par rapport à des choses ou à des événements qui n'étaient pas encore visibles à l'œil. C'était par beau temps. Dieu lui a demandé de construire une arche énorme, gigantesque, sur une terre désertique. Ce n'était pas logique humainement. Mais il y a eu l'urgence d'agir, il a fait ce que Dieu lui a dit, il a tenu bon pendant ces années-là, il a été un prédicateur de justice aussi durant ces années-là. Un autre exemple, tout de suite après, celui d'Abraham. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, quand Dieu l'a appelé, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Foi véritable. Un peu comme vous et moi, quand on a commencé à changer des choses majeures dans nos vies, on est parti vers quelque chose de nouveau. Quand on a commencé à observer le sabbat et les gens nous trouvaient bizarres autour, on est parti pour une façon de faire tout à fait différente. On est devenu étranger de plus en plus pour les gens autour. La foi véritable produit l'obéissance. C'est ça qu'Abraham a fait. Et Abraham l'a fait sans savoir tout ce qui venait. Il a été patient. Il a cru par le Christ en lui et il a été patient par le Christ en lui. Verset 9. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes ainsi qu'Isaac, Jacob, cohéritier de la même promesse. Et Abraham a vécu le reste de sa vie physique en terre de Canaan. Avec lui, Isaac et Jacob ont habité sous des tentes pour indiquer que notre passage sur la terre, c'est vraiment temporaire et que cette vie-là n'est pas la seule. Alors, eux avaient les yeux sur ce qui était encore invisible à l'époque. Ils voyaient la cité que Dieu a promis d'établir sur la terre au bout de l'histoire humaine. En fait, ils étaient en route pour ailleurs que leur lieu de passage où ils étaient. Ils étaient en route pour ailleurs, comme vous et comme moi. Nous sommes en route pour ailleurs que là où nous sommes maintenant. Alors, voyez-vous, la foi du Christ, c'est ceci, c'est de voir les choses comme Christ les voit. Plus on est proche de lui, plus on les voit comme il les voit, et plus on a sa force. La foi de Christ nous fait réaliser que le monde qui nous entoure, qui est pourtant réel à nos yeux, là, ce n'est pas ce qui compte. C'est pas un but en soi, car il va disparaître. Ce n'est pas le seul monde qui existe. Vous avez sûrement entendu un dicton comme moi à différentes occasions. Nous avons une seule vie à vivre. C'est faux. On n'a pas une seule vie à vivre. Absolument pas. Il y a une deuxième vie qui vient. Et il y a un autre monde qui vient. Ça va ensemble. Abraham croyait et attendait cette réalité-là d'une autre vie et de la Jérusalem céleste qui va être établie sur la terre, selon le plan de Dieu plus tard. Même chose pour son épouse, Sarah, femme d'Abraham. L'épouse d'Abraham a cru Dieu quand Dieu lui a dit qu'elle aurait un fils, même si elle était très vieille, elle n'était plus en âge d'avoir des enfants. Regardez verset 11, c'est par la foi que Sarah elle-même, âgée, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Elle a cru. Même chose. Intéressant. Et intéressant dans le cas de Sarah parce que l'annonce que Dieu lui a fait qu'elle aurait des enfants, qu'elle aurait un enfant à l'âge où elle était rendue, l'a tellement surprise qu'elle a ri. Et c'est intéressant parce que Dieu a inspiré que le nom de l'enfant, Isaac, veut dire rire. Son nom, le nom Isaac veut dire rire. Alors voyez-vous, Dieu a donné de grands miracles à Abraham et à son épouse qui étaient très vieux pour être capable d'avoir des enfants. Abraham avait reçu la promesse de voir une postérité tellement nombreuse qu'elle serait innombrable, qu'elle serait comme les étoiles du ciel. Mais écoutez, quand Abraham est mort, il n'a jamais vu cette postérité-là. Il n'a jamais vu cette promesse se réaliser. Regardez le verset 13. « C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. » Ça, ça nous dit quelque chose à nous autres. Il ne faut pas regarder en arrière. Il ne faut pas regarder avec nostalgie notre ancienne façon de vivre, notre ancienne vie. Dans quelle direction est-ce qu'on veut aller? C'est la foi de Christ qui va nous aider à trancher ça, qui va nous garder dans la bonne direction. C'est la foi de Christ qui nous rend capable de comprendre le grand plan de Dieu. C'est lui qui l'a fait. Alors, il nous donne de le comprendre quand on est proche de lui et qu'on travaille à changer. Et la foi nous rend capable de voir aussi l'urgence des situations où on se trouve, de voir la nécessité de patienter pour arriver au bon résultat et d'obéir de mieux en mieux. Vous avez la même chose d'un autre serviteur de Dieu qui a cru Dieu, Joseph, un peu plus loin. Hébreux 11 et le verset 22. C'est par la foi que Joseph, mourant, fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses os. Alors, il était en Égypte avec sa famille. Il savait que Dieu allait délivrer Israël de l'esclavage plus tard, plusieurs années après. Alors, il a demandé à ceux qui étaient là, il dit, après ma mort, assurez-vous, quand vous allez sortir de l'Égypte, assurez-vous d'amener mes os avec vous pour les enterrer en terre de Canaan, dans la terre promise. Je veux être là au moment de la résurrection. C'était probablement ça qu'il avait à l'esprit, j'imagine. Alors, voyez-vous, il voyait l'invisible. Sa nation n'était pas en danger à ce moment-là, lorsqu'il est mort. Tout allait bien. Les Israélites étaient bien traités encore. La maltraitance en ce qui les concerne n'avait même pas commencé. Mais lui voyait que ça allait venir et il voyait que Israël plus tard allait être libéré, comme Dieu avait dit, et ainsi de suite. Alors, foi et patience. Foi et patience. Rahab, c'est la même chose. Rahab, la prostituée qui vivait à Jéricho. Ce n'était pas une Israélite. C'était une Cananéenne, donc une non-juive, une païenne, si vous voulez. Et au moment où l'événement est cité concernant Rahab, au verset 31 ici, c'était 40 ans après que les Israélites avaient sorti d'Égypte, après les grands miracles que Dieu avait faits et qui avaient été connus totalement dans la région. Rahab le savait, mais les autres habitants de Jéricho le savaient aussi, qu'il y avait eu cette chose extraordinaire que tout un peuple nombreux de quelques millions de personnes avait été libéré miraculeusement de l'Égypte. Il dit, c'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Voyez-vous, Rahab le savait concernant Dieu. Elle a eu foi à Dieu. Elle a eu confiance à Dieu. Mais tous ses concitoyens savaient la même chose aussi. C'est quoi la différence? C'est que Rahab a choisi de croire Dieu, de lui faire confiance. Elle a protégé les espions que Dieu avait envoyés. Et elle a été protégée par la suite, elle a été bénie. On peut voir ça dans Josué 2. Josué 2, on va lire les versets 8 à 13. Gardez votre place dans Hébreu, on va revenir. Josué 2, on va voir exactement ce qui s'est passé. Deuxième chapitre de Josué, versets 8 à 13. Ça décrit ce qui est arrivé à ce moment-là. Avant que les espions se couchent, les deux espions étaient arrivé à Jéricho pour aller identifier le lieu. Avant que les espions se couchent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit, « L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis et tous les habitants du pays tremblent devant vous. » Ils savaient ce qui était arrivé à l'Égypte, à Pharaon, à son armée. « Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer, les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris, et nous avons perdu courage, et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. » Et après ça, elle demande aux deux espions de l'épargner, de même que ceux de sa famille, lorsqu'ils vont attaquer Jéricho et qu'ils vont détruire la ville. Et les espions lui ont répondu favorablement. Dieu donne son Saint-Esprit à ceux qui choisissent de croire en lui et de lui obéir en agissant en conséquence. Exactement ça. Tout ça se tient. Il y a d'autres qui ont aussi fait des expériences de foi et de patience. Hébreu 11, on revient à Hébreu maintenant. Hébreu 11, et on va lire le verset 32. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel et des prophètes. Ces gens-là, laissez-moi préciser ceci, ces gens-là ne sont pas nés avec la foi. Ne sont pas nés avec la foi. Ils l'ont reçu. Dieu les a appelés, ils l'ont reçu. Et qu'est-ce qu'ils ont fait avec? Ils l'ont entretenu, ils l'ont utilisé, ils l'ont développé en pratiquant les voies de Dieu avec patience. Il y avait des œuvres, leurs actions étaient en conséquence. Plusieurs de ces gens-là ont été miraculeusement protégés, délivrés, et ça sera encore le cas pour plusieurs. D'autres ont dû donner leur vie avec l'aide de Dieu pour être capables de rester fidèles et de ne pas perdre leur vie éternelle. Lisons le verset 33 à 35. « Par la foi, ils vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent livrés aux tourments et n'acceptèrent point de délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection, c'est-à-dire la première, la résurrection à la vie éternelle. » Mais je vais plus loin. Certains héros de la foi, c'était des gens craintifs. Je vais plus loin, c'était des gens peureux. Ils se sentaient au point de départ impuissants. C'était des êtres humains, comme vous et comme moi. Ça a été le cas de Gédéon, par exemple, dont il est question après. Vous pourrez lire son histoire si vous voulez poursuivre l'étude, dans Juges chapitre 6 à 8. Juges chapitre 6 à 8, vous avez toute l'histoire de Gédéon. Dieu l'a appelé pour faire un travail spécial. ce jeune homme-là. Dieu lui a dit, tu vas délivrer la nation d'Israël des Madianites qui écrasaient le pays. Ils faisaient des rixes régulièrement pour aller voler les récoltes, pour prendre leurs choses et ainsi de suite. Ils étaient vraiment comme des esclaves dans leur propre pays. Gédéon, quand il a été appelé, il était en train de moudre du grain à la cachette parce que les Madianites venaient puis prenaient leur nourriture. Il avait peur de la situation qui le terrifiait. Vous allez le voir en lisant les chapitres que je vous ai dit. Et il ne se sentait pas capable du tout d'accomplir la mission que Dieu lui avait donnée. Comme parfois quand Dieu nous appelle, on ne se sent pas capable de dire « je vais arriver au but ». Mais c'est par Dieu qu'on peut y arriver seulement. Et quand vous regardez, je pense qu'on va y aller, ça vaut la peine. Juges 6. Allez dans le livre des Juges. Avant le livre de Samuel, après Josué. Juges, le chapitre 6. On va lire le verset 12 à 16. L'ange de l'Éternel lui apparut à notre ami Gédéon. Il lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Oui, il n'était pas vaillant héros, il se cachait pour moudre le grain, là. Il n'était pas encore vaillant héros, mais Dieu allait lui donner de devenir vaillant héros. Comme Dieu va nous donner à nous de devenir vaillants héros de la foi si nous restons proches de lui et travaillons à faire sa volonté en suppliant chaque jour de nous aider. Vaillant héros, Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses sont-elles arrivées, nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? » Maintenant, l'Éternel nous abandonne. Alors, ce que lui voyait avec ses yeux humains à ce moment-là, il voyait les problèmes que la nation avait. Tout ce qui se dégradait, se brisait autour. Alors, il dit, l'Éternel n'est pas avec nous, là, ça va pas. Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. Il nous attaque régulièrement, comme nos nations actuellement sont en train d'être méprisées, rejetées, et ça va continuer. Ça, c'est ce qu'on voit à l'œil, comme Gédéon voyait autour, si vous voulez. L'Éternel, verset 14, se tournant vers lui, et dit, « Va avec cette force que tu as ou que tu vas avoir et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Autrement dit, Dieu dit, « Si je te demande de faire quelque chose, je vais être avec toi. Sois confiant de ça. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Il y avait toutes les raisons pour dire, j'ai peur, je veux pas y aller. Exactement. L'Éternel lui dit, et ça, c'est le passage important. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. La source de toute force dont nous avons besoin, c'est la force de Dieu. Quelles que soient les circonstances et quelle que soit la grandeur du problème. Vous verrez par le contexte que la victoire a été éclatante. Mais encore là, Gédéon n'a pas commencé en étant un héros de la foi. Il a commencé en étant inquiet, en étant craintif, en n'étant pas sûr de lui. Même phénomène par rapport à un autre juge en Israël aussi. Je vous le donne celui-là parce que ça va avec l'exemple de Gédéon, Barak, dont on parle après. Dieu a dit à la prophétesse Déborah, il y avait une prophétesse à ce moment-là en Israël, c'est-à-dire une femme qui parlait inspirée par Dieu, les gens allaient la consulter, elle était connue. Alors Dieu a demandé à sa prophétesse, il dit, va voir Barak et dis-lui d'aller attaquer les Cananéens et de les vaincre. Et vous allez voir dans le contexte, si vous allez lire le passage, que Barak, il dit, qui? Moi? Je suis pas capable de faire ça. Il avait peur. Il se sentait impuissant, insécure. Et vous savez ce qu'il a fait? Il savait que la prophétesse parlait de la part de Dieu. Il dit, je vais y aller si tu viens avec moi. Alors, Déborah, la prophétesse, il a dit, OK, je vais te prendre la main. Je vais te tenir par la main, mon petit gars. Je vais aller avec toi. Mais voyez-vous, celui qui est mentionné comme un héros de la foi, Barak, c'était pas ça au début, là. Il avait besoin que sa maman l'amène pour aller diriger l'armée qui allait combattre et qui allait vaincre, pas par la force de Barak, mais par la force de Dieu. Et Dieu lui a donné la victoire. C'est exactement ce qui est arrivé. Alors, je vous donne ça pour qu'on voit que, comme nous, aucun d'eux n'avait lu d'avance l'histoire de sa vie. Aucun d'eux n'avait lu d'avance l'histoire de sa vie, ni comment ça allait se terminer. Shadrach, Meshach, Abednego, les trois amis de Daniel, ont été menacés d'être brûlés dans une fournaise ardente quand ils ont refusé, vous savez, d'adorer la statue de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar leur a dit, vous allez être brûlés dans une fournaise ardente. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été, on voit l'histoire, parce que nous on la connaît, l'histoire, on la lit après, eux la savaient pas avant. Ils ont été délivrés du feu de la fournaise par Dieu. Ils avaient la foi, mais je vais plus loin. Ils avaient la foi que Dieu avait le pouvoir de les libérer, de les épargner du feu. Il avait le pouvoir de faire ça. Mais ces trois jeunes amis-là ne savaient pas si Dieu allait le faire. Et Dieu aurait pu ne pas le faire. D'ailleurs, on voit leur réponse quand ils ont dit à Nebuchadnezzar, on n'adorera pas ta statue, Dieu va nous bénir. Mais s'il décide de nous laisser périr, que sa volonté soit faite. Voyez-vous, c'est exactement ça qu'il leur a dit. Alors, ils étaient prêts, donc, à donner leur vie. Ils étaient prêts à donner leur vie s'il le fallait. Leur but, c'était quoi? Leur but, c'était d'être fidèle à Dieu, de ne pas faire de compromis. Avant tout, ils voulaient être épargnés de beaucoup plus qu'un feu physique. Ils voulaient être épargnés en étant fidèles. Ils voulaient être épargnés du feu de la géhenne, de la destruction éternelle en bout de ligne. Voyez-vous, ils voyaient plus loin que le visible. Ils voyaient au-delà de leur situation d'alors. En ce qui nous concerne, si nous tenons bon, nous allons nous retrouver bientôt avec eux en tant qu'êtres immortels devant le trône de Dieu. C'est ça, c'est ce qui nous attend. Et tous seront au même point en même temps. Reportez-vous, s'il vous plaît, un dernier passage à Hébreux, chapitre 12. On revient à notre livre aux Hébreux. Hébreux, chapitre 12. Verset 22. Commençons au verset 18. Il dit, « Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête et du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles telles que ceux qui les entendirent demandèrent qu'il ne leur en soit pas donné une de plus, car ils ne supportaient pas cette déclaration, etc. » Il parle de la première Pentecôte ici, où Dieu a fait une manifestation très éclatante de sa présence lorsque les 10 commandements ont été donnés à Moïse sur le mont Sinaï. Il dit, regardez, vous autres, c'est plus que ça, là. Ce n'est pas une montagne physique. Ce n'est pas une situation comme ça de laquelle vous vous êtes approchés. On le voit d'ailleurs un petit peu plus loin au verset 22. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, du gouvernement de Dieu, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste qu'ils attendaient et que nous attendons, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, ceux qui ont été rendus parfaits, qui sont en attente d'être ressuscités en tant qu'êtres immortels. Vous vous êtes rapprochés de Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion, qui parle mieux que celui d'Abel. Et c'est pour ça, après, il dit, gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Car si ceux qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre n'ont pas échappé, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux, lui dont la voix ébranla alors la terre au moment du mont Sinaï, et qui maintenant a fait cette promesse, une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Et c'est ce qui s'en vient tout proche devant nous. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps des choses passagères, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Voyez-vous, développer de continuer d'être agréable à Dieu. Alors, je conclue simplement en disant, demandons avec insistance chaque jour. Demandons et utilisons la foi et la patience du Christ vers le monde inébranlable qui approche.